RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast où tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour plaisir, tu vas trouver, comme toutes les semaines, tout ce que tu cherches ici. Évidemment, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de marathon, le Beach Boy d'RMC.
Le Beach Boy.
Salut Johan, comment ça va?
Salut à tous, ça va Benoît?
Bah ça va, je suis content, t'es en studio en plus.
Ah, ouais, je suis en studio et puis c'est une thématique qui va me parler ça.
Ah oui, je pense.
Je sens que c'est pour moi celle-là.
Ça te plaît.
Là, évidemment. Tu vas pas m'amener sur des 100 bornes, des trucs. Non.
Ah non, pas sur. On va pas t'emmener dans la neige.
Dans la neige, dans des, au marathon des sables.
Ouais, là, on va parler confort aujourd'hui.
Ah ouais.
Exactement. On vous rappelle ce conseil fidèle d'RMC Running, vous nous rejoignez sur Strava, le club RMC Running, sur Instagram, sur Twitter, vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement. Alors pendant tout l'été, l'équipe d'RMC Running va continuer à vous accompagner dans vos sorties, dans des épisodes qui seront un peu particuliers. Pas de portrait pendant tout l'été, en revanche, de grandes thématiques qui concernent tous les coureurs qui peuvent vous permettre d'optimiser votre potentiel. La première thématique dont nous allons parler cette semaine, Johan Durand l'adore. On va parler du sommeil, véritable allié de l'organisme dans la pratique sportive. Et pour en parler avec nous, on va accueillir dans un instant Victoria Tchaïkovski, pardon, qui est médecin du sport. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
Aujourd'hui, on va se pencher sur l'importance du sommeil.
Une journée de plus en moins, on est dormi, rapidement on recommence.
Donc de tous les éléments qui viennent amputer la performance, il y en a un qui est plus important que les autres. C'est le sommeil.
En dessous de 8 heures de sommeil, donc qui est considéré comme une nuit complète, on a presque deux fois plus de chances de se blesser.
Le sommeil est une fonction corporelle essentielle qui ne reçoit pas suffisamment d'attention.
Dans les statistiques, LeBron James dort 12 heures par jour.
Bien battu! Moi je suis fier de vous! Vous pouvez aller dormir tranquille!
Se réveiller chaque jour à la même heure, avoir une sorte de routine, que ce soit à l'endormissement ou au réveil, peut être intéressant.
Qui est pour dormir un peu, qui en est au moins et qui se repose?
Non, dormir c'est mourir.
Le sommeil occupe presque un tiers de notre vie.
Tu n'as pas sommeil.
Eh oui, le sommeil, c'est très important. Ça parle à Johan Durand qui dort 16 heures par jour. Eh oui, évidemment.
Il va me faire passer pour une marmotte.
Et on en parle donc avec Victoria Tchaïkovski qui est médecin du sport et qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Victoria.
Bonjour à tous, moi je suis médecin de sport et donc j'accompagne les sportifs sur tous les plans, y compris le sommeil, et leur hygiène de vie, les conseils pour éviter de se blesser. Donc je vais vous parler du sommeil aujourd'hui.
Elle est parfaite.
Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation.
Eh ben non, merci d'être là, elle est parfaite, elle est souriante, Victoria Tchaïkovski. Victoria d'ailleurs, pratiquante de course à pied en plus, tu aimes ça le running Victoria?
Et ouais, exactement, j'en fais un petit peu toutes les semaines parce que ça fait beaucoup de bien, l'activité aérobie fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup la course à pied, c'est une discipline que j'aime et que je vois beaucoup de patients coureurs et c'est vrai que le fait de connaître ces disciplines, ça permet aussi de donner des conseils, de mieux comprendre les blessures.
Bon, du coup, on va se servir de tous tes conseils en tant que médecin du sport. On va également profiter du témoignage du coup de Johan Durand, parce que toi, tu es athlète de haut niveau, donc tu essaies, j'imagine, d'optimiser le sommeil, parce que c'est crucial dans la performance de haut niveau. Donc, tu vas pouvoir nous dire comment tu fonctionnes, Johan. Mais question toute simple pour démarrer, Victoria, les bienfaits principaux d'une bonne nuit de sommeil, c'est quoi? C'est optimiser la récupération?
C'est très très important, une bonne nuit de sommeil, c'est 7h à 9h en fonction des individus. C'est la récupération qui va être autant neurologique, c'est-à-dire notre cerveau se repose, mais aussi musculaire, les muscles ils vont mieux récupérer. On va augmenter la performance quand on dort régulièrement, on va augmenter sa concentration, on va aussi diminuer le risque de blessure et même diminuer le risque de faire des infections, des atteintes du système immunitaire. Donc c'est vraiment le sommeil a énormément de bienfaits.
On a fait de nombreux épisodes avec toi, Johan, et je me rappelle que tu m'as dit une fois, je sais plus dans quel épisode, tu m'as dit, moi je sens que je suis fatigué quand je commence à être irritable, etc. Ouais. C'est des périodes où tu dors un peu moins bien, c'est ça en général?
Ouais, où je suis plus maladroit ou plus irritable au quotidien, et c'est vrai que ouais, quand t'es trop fatigué, ça on pourra en parler tout à l'heure, mais quand t'es trop fatigué, j'ai l'impression que tu dors moins bien.
Oui.
Tu vois, quand t'es vraiment fatigué, bah tu dors moins bien, et quelque part, ouais, il faut adapter l'entraînement quand vous sentez que bah justement que vous êtes à court de sommeil, que tout vous énerve la journée. Là, il faut être vigilant parce que c'est le risque de blessure accru quoi.
On a parlé des bienfaits d'une bonne nuit de sommeil. Quels sont les risques liés au manque de sommeil justement, Victoria?
Et ben justement, en fait, comme on le disait juste avant, c'est quand on est trop fatigué, on devient irritable, on se blesse plus fréquemment, on n'arrive plus à se concentrer, et en fait, on rentre dans un cercle vicieux, on est fatigué et qu'on n'arrive plus à dormir. Donc ça, il faut être très vigilant là-dessus. Le sommeil, ça fait partie des questionnaires de surentraînement chez les sportifs, parce que on est souvent dans une sorte de mauvaise spirale où on dort pas assez, on dort encore moins parce qu'on est fatigué, irrité, stressé par ce manque de sommeil.
C'est ça.
Donc les risques, c'est vraiment d'avoir des blessures plus fréquentes. Et d'ailleurs, les sportifs, ils nous le disent parfois que ils sortent quand ils sont blessés, fait une déchirure musculaire d'une période où ils avaient un projet, un contrat, un truc à finir, où ils dormaient plus, ils se couchaient à 2h du matin, ou ils vont jouer au tennis le matin, après une grosse soirée la veille, ils ne sont pas échauffés, ils n'ont pas assez dormi. Ça favorise vraiment à court et à long terme le risque de blessure. Sans parler vraiment des risques, tout ce qui est cognitif, la mémoire qui peut baisser, la concentration. Il y a des sports où on a besoin d'être parfaitement concentré pour faire une performance. Donc c'est quand même embêtant. Et puis tout ce qui est système immunitaire, si on dort pas sur une période prolongée suffisamment, on est plus à risque de faire des infections ORL, des rhumes, de choper des trucs à droite à gauche, la gastro, toutes les infections avec lesquelles on va être en contact par d'autres personnes.
On l'a entendu dans la production sonore de Geoffrey Charpie, notre producteur, la nuit idéale, c'est une nuit de 8 heures, c'est ça?
C'est ça. En fait, c'est 8 heures. En fonction des individus, on va de 7 heures à 9 heures. On a tous des besoins qui sont un petit peu différents. Mais effectivement, une nuit complète, c'est 8 heures. Et on peut pas toujours dormir 8 heures, mais il faudrait qu'en moyenne, ça soit l'objectif.
Donc, Johan qui dort de minuit à 14 heures, c'est trop.
Déjà, les heures avant, est-ce que c'est vrai?
Il n'y a pas eu d'études sur l'hypersomnie, il y a des marmottes.
Hein, est-ce qu'on peut dormir trop?
Trop, non, ouais, je sais pas. Par contre, est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit comptent double? Souvent, on entend ça, ce petit truc. Ouais.
C'est une très bonne question. Et en fait, ça dépend du rythme biologique de la personne. Il y a des personnes qui sont du matin et des personnes qui sont du soir. Ah. Effectivement, les personnes qui sont du matin, il faut qu'ils se couchent tôt. Parce que quand ils se couchent trop tard, ils vont avoir une tendance à avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur et se réveiller tôt quand même. Donc, pour les chronotypes du soir, oui. C'est d'accord. Effectivement vrai, mais okay. Ça va pas être vrai pour quelqu'un qui est plutôt alerte et vigilant le soir. Donc ça dépend des personnes.
On en vient à la question suivante. Est-ce que c'est important, comme on l'a entendu, de dormir à heure fixe, d'avoir un certain rythme, au quotidien, qui permet justement d'avoir des repères et de favoriser la récupération de l'organisme?
Ben, en fait, c'est très important parce que tout simplement, le cerveau, il ne sait pas gérer le décalage tous les jours. Et si on dort pas à heure fixe, on va avoir tendance à avoir des troubles d'endormissement. Donc, en fait, ce qui est préconisé chez tout le monde, mais même chez les personnes qui ont des problèmes de sommeil, c'est d'avoir un coucher vraiment à heure quasiment fixe tout le temps et d'avoir un rituel où on va, se brosser les dents, se mettre au calme, arrêter les écrans.
Voilà.
On va pouvoir se mettre au calme progressivement avant de dormir, de pas avoir des stimulations, un stress le soir, ni une activité physique pratiquée juste
alors,
avant,
justement.
Parce que ça fait monter la température.
Justement, parce que ça aussi...
Comme Johan, il connaît.
Voilà, mais alors Johan est sportif de haut niveau, donc c'est un peu différent, mais...
Ah, c'est sa routine.
Il y a des runners qui travaillent toute la journée,
qui vont courir à 20h, 21h.
21h.
Et derrière, là, c'est dur de trouver le sommeil.
Voilà, c'est ça.
C'est
contre-productif, alors, Victoria, pour vous.
Bah, quand on a une compétition et qu'on n'a pas le choix et que ça finit tard, effectivement, ça restait ponctuel, mais c'est effectivement contre-productif d'aller faire une activité physique soutenue juste avant de dormir. On va avoir du mal
à
s'endormir
sommeil,
tout de suite après.
On est un peu sur l'excitation.
On est surexcité, la température corporelle, elle
on
est montée.
Donc... Après une séance, on est super éveillé. Ouais. Et...
C'est dur.
Voilà, donc tu le confirmes et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate très souvent et c'est pour ça que c'est déconseillé le soir.
Victoria, est-ce que tu as des conseils pour le dîner? Est-ce que le repas
pas
que tu consommes
lourd,
au dîner, justement, peut nuire à ton sommeil?
Et c'est une vraie question parce que l'alimentation, c'est aussi quelque chose de très important. Il est vrai qu'on évite chez les sportifs, c'est vrai qu'on apporte le maximum d'apport au déjeuner. Il faut que ça soit réparti entre déjeuner et petit déjeuner. Et un repas qui est modéré à léger le soir.
Ouais, léger.
Parce qu'un repas trop lourd... On peut avoir du mal à digérer, on peut avoir du reflux, enfin c'est galère.
Quand tu manges trop le soir, ouais, c'est ça, bah tu le vois, tu manges trop, t'as du mal à trouver le sommeil.
Exactement. Ouais. T'as remarqué, quand tu manges trop, t'as l'estomac qui est gonflé, t'as du mal à digérer, on n'est pas bien, quoi.
Benoît, ouais. Il vit ça tous les soirs.
Ouais, non, mais c'est vrai, ça dépend, mais bon, on va passer à la soupe, hein, le soir, du coup. Voilà. Au gazpacho.
Non, mais quand c'est ponctuel, ça va, mais quand il faut s'entraîner tous les jours, le lendemain, on se lève avec des aigreurs d'estomac, on n'est pas bien, on a du mal à digérer, bah, c'est pas top. Parce qu'on n'est pas en forme pour aller courir.
Alors, Victoria, est-ce que le sommeil est d'autant plus important dans une journée où on a fait une énorme séance? Admettons, on est dans une prépa marathon, on a fait une grosse séance de fractionné ou une sortie longue. Est-ce que la nuit qui suit cette grosse séance est plus importante que les autres ou pas forcément?
Et ben même au-delà de ça, les sportifs de haut niveau font même quasi systématiquement des siestes après les gros entraînements, ouais. Parce qu'ils ont besoin de plus de sommeil. C'est donc au-delà, il faut bien sûr une nuit qui est vraiment récupératrice et parfois de plus de 8 heures si on n'a pas siesté. Et parfois sur les gros entraînements, grosses sorties vélo, sorties longues de course à pied le matin, il faut tout simplement faire une sieste de récupératrice qui permet aux muscles, au cerveau de récupérer aussi, de se détendre et de récupérer de l'énergie.
Alors,
et les sportifs de haut niveau le font très souvent, dans plus de 50% des cas.
Ça parle à Yoann Durand.
Exactement.
Confirme.
Ah, moi, je suis un adepte de la sieste. Hein.
Voilà.
Je suis un bon exemple. Ouais, je dors six fois par semaine, je dois faire la sieste. Il y a un jour, des fois, où j'ai pas le temps parce que j'ai des activités et je suis pris en début d'après-midi. Mais sinon, je sieste tout le temps.
Et sieste de combien de temps?
Et alors voilà, moi, c'est pas la petite sieste, le petit quart d'heure, comme on peut le conseiller pour juste reposer. Moi, j'entre carrément dans des vrais cycles de sommeil. Et des fois, les siestes, elles durent plus d'une heure, hein. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est parce que mon corps me le demande. C'est pas je me mets dans le lit et juste pour le plaisir de me mettre dans le lit et de rien faire. C'est juste mon corps qui me dit vas-y, faut dormir parce que là t'es KO.
Mais est-ce que le temps de sieste est augmenté dans une grosse prépa?
Complètement.
Tu prépares un marathon,
c'est ça.
Ouais, complètement.
Allons-y sur la sieste du coup. Quels sont les conseils pour tous ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il faut la pratiquer si on peut le faire évidemment? Quelle durée? À quelle heure? C'est quoi les bons conseils?
Alors ouais, ça c'est vrai que c'est des bonnes questions. La grande majorité de sportifs de haut niveau font la sieste les jours où ils s'entraînent beaucoup, en tout cas, hein, ça peut être 5-6 fois par semaine avec un jour où on sieste pas. Ça permet de récupérer, ça permet de faire aussi une deuxième séance d'entraînement derrière. C'est vrai que la période qui est favorable pour la sieste, c'est la période qui est postprandiale, parce qu'on va avoir le taux de cortisol qui baisse et on va avoir naturellement sommeil.
Ça veut dire quoi, postprandiale?
C'est après le repas du déjeuner. On va pas se coucher tout de suite après, mais une heure après le repas, dans l'après-midi. Difficile de siester le matin.
Et la durée de la sieste alors?
Alors la durée, c'est vrai que la durée préconisée globalement, mais ça c'est sans prendre en compte les entraînements, chez une personne lambda va être d'une demi-heure. Après, attention, quand on s'entraîne beaucoup, on a besoin de plus de temps pour récupérer. Et pourquoi on conseille des courtes périodes? C'est parce que quand on fait un cycle de sommeil plus complet, on peut avoir un petit peu plus de difficultés pour se réveiller. C'est-à-dire si on dort 15 minutes, on a l'air tout de suite. Mais bon, ça, c'est pas un problème en soi. Hein. Faut juste que si vous n'avez pas besoin de travailler 5 minutes après la sieste, c'est bon. Ouais.
Non, mais toi, Yoann, parce que toi, tu t'entraînes très souvent deux fois par jour lorsque tu es en prépa marathon, donc tu fais une bonne sieste. Le réveil, la sieste est difficile quand même.
Des fois, je ne sais pas si je suis quand je me réveille, si je suis le matin, je ne sais plus où je suis.
Il y a combien de temps entre la fin de ta sieste et ton deuxième entraînement, par exemple?
J'ai 2 heures quand même.
Ah, 2 heures.
Ouais, j'ai 2 heures avant de me réveiller. Ouais, j'ai 1h30, 2 heures. Mais alors après, moi, je suis le bon exemple pour les études sur le sommeil parce que je suis un bon dormeur, c'est-à-dire que tu me mets dans un lit à 11h du matin, si j'ai fait un entraînement le matin, je suis capable de dormir. Par exemple au Kenya, pour prendre l'exemple, quand on va s'entraîner au Kenya, on s'entraîne relativement tôt, on s'entraîne à 6h du matin pour éviter les grosses chaleurs.
Donc ça veut dire départ 5h de l'hôtel.
Voilà,
ça
veut dire tu pars à 5h30, tu te réveilles à 5h30, tu pars courir de 6 à 8, après tu déjeunes, et là de 9h à midi, moi ce que je fais, c'est que je me remettais dans le lit et là je redormais une heure, après j'allais manger et je redormais de nouveau. Une petite sieste à 14h, mais celle-là est plus courte.
La double sieste.
Ouais, c'est ça.
C'est pas du tout étonnant. Hein.
Mais parce que c'est notre corps qui le demande et parce qu'on est dans un état de fatigue que c'est comme ça. Franchement, c'est comme ça que tu récupères. Hein. Moi, j'ai jamais vu une meilleure. Quand on me demande comment récupérer d'un entraînement, commence par bien manger, par bien dormir et tu verras.
Et l'hydratation.
C'est HAS, hydratation, alimentation et sommeil. Il n'y a rien de plus efficace que ça.
Bravo Victoria, tu vois, elle synthétise tout ce qu'on dit.
Ouais.
Bravo. Comment gérer les insomnies de veille de compétition ? Ça, on l'a tous connu. J'imagine que même les athlètes pros le vivent. On dort souvent mal les veilles de compétition, surtout quand c'est loin de chez nous. C'est vrai
On m'a toujours dit que c'était l'avant-veille le plus important.
Ah bah justement, est-ce que la nuit de l'avant-veille est plus importante, Victoria ?
Alors, effectivement, le manque de sommeil, c'est quelque chose qui s'accumule sur le temps. On va baisser en performance quand on ne dort pas depuis un mois. Mais si on a une nuit qui n'est pas terrible, ça ne va pas avoir un retentissement immédiat. C'est-à-dire qu'on va être effectivement un peu plus fatigué, un peu plus irritable, mais on ne va pas forcément faire une moins bonne perf. Parce qu'on a récupéré la nuit d'avant ou les nuits d'avant, globalement. Donc c'est sur la durée que c'est important. Après la gestion, il y a souvent des athlètes qui me disent mais je suis plus efficace quand je dors moins longtemps. Ça il faut que Johan nous en parle.
Non, c'est pas Johan.
Honnêtement, moi il y a eu des périodes où j'ai moins bien dormi et j'avais pas noté de baisse de performance.
Entre guillemets, on a moins dormi que d'habitude et fait une belle performance le lendemain.
Est-ce que
comme quoi la nuit d'avant, c'est pas si grave de faire une insomnie la veille.
Alors, est-ce que toi Johan avant des grosses échéances, des gros marathons, notamment quand tu as fait ton record à Paris, est-ce que la veille tu as bien dormi ? Est-ce que tu es perturbé quand même ? Ou est-ce que finalement.
Ça dépend des courses, ça dépend de chacun. Alors ce qu'il faut, c'est déjà anticiper à savoir à quelle heure va être le départ de la course ou le réveil. Tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai participé au marathon de Milan. Le départ de la course était à 6h30 du matin parce que c'était en période Covid. Donc la ville était fermée. Donc ils nous avaient autorisé à participer. Enfin, c'était à une époque pas si lointaine, mais où tout était interdit.
Et donc, on avait 3h.
Et donc, je me suis levé à 2h45 pour manger mon petit déjeuner. Et il a fallu que je l'anticipe, que je me décale comme si pendant 10-15 jours, comme si j'étais, je m'étais mis sur le fuseau horaire, comme si j'avais 3 heures de décalage avec la France, tu vois. Je me levais pendant la dernière semaine à 5-6 heures pour habituer mon corps à se lever tôt, tu vois.
Ah c'est bien
pas être surpris.
Alors très bonne remarque qui amène la question suivante. Comment gérer les décalages horaires ? Souvent on s'offre des courses qui peuvent être magnifiques, j'imagine ceux
New
qui
York
se lancent un défi d'aller courir le marathon de New York ou d'aller de l'autre côté.
Encore dans ce sens ça va.
Voilà, c'est vrai que dans le sens États-Unis c'est plus facile le Victoria parce que le décalage est dans le bon sens, c'est-à-dire que quand on arrive aux États-Unis, on va se lever à 5h ou 6h. Donc en revanche, si on va à côté de l'Est, si on va à Tokyo ou de ce côté-là de la planète, c'est plus compliqué. Donc, comment on gère justement l'adaptation au décalage horaire ?
Ça, c'est une vraie question et c'est une problématique de performance, en fait, parce que c'est important d'anticiper. On va anticiper sur le décalage horaire, un peu comme l'a fait Johan là. Avant de partir, si on n'a pas la possibilité, soit on vient avant, on a possibilité de s'adapter. On vient une semaine ou deux semaines avant la compétition, quand on peut se permettre les Jeux Olympiques. Ouais. Soit on va se coucher plus tôt, effectivement se lever plus tôt et s'adapter progressivement. Donc déjà d'adapter son rythme. Après, il y a aussi des petits compléments comme la mélatonine qui vont aider à recaler le rythme de sommeil.
D'accord.
Quand on arrive sur place.
Ouais, parce que lorsqu'on organise un voyage comme celui-là, il y a aussi le voyage en avion. Hein. Souvent, lorsque les voyages sont organisés pour le marathon de New York, en général, les participants partent le jeudi ou le vendredi. C'est pareil. Est-ce qu'on passe le vol à dormir ? Est-ce que finalement on reste éveillé pour faire une bonne nuit de sommeil une fois qu'on arrive là-bas ? Qu'est-ce qu'on conseille, Victoria ?
Alors ça c'est une vraie problématique. Il va falloir le caler sur les heures de sommeil potentielles en fonction des horaires de vol pour que ça soit toujours les mêmes heures ou à peu près. Avec quelques heures de décalage près, quoi. Mais c'est difficile. Je pense que Johan, il en parlera mieux que moi. C'est vraiment du cas par cas.
Encore Johan, il est athlète de haut niveau, mais pour le coureur lambda qui part avec sa famille, la famille, elle fait un peu la gueule. Hein, quand on s'adapte aux heures de sommeil.
Ouais, qui met ces trucs là sur les yeux pour dormir.
C'est un peu dur.
C'est vrai.
Est-ce que vous avez des conseils tous les deux pour mieux s'endormir, justement ? On a dit il faut dîner assez léger et couper les écrans. Alors, c'est le meilleur conseil, ça, Victoria ?
Ben, les écrans, ça coupe la production de mélatonine, l'hormone naturelle qui fait dormir. Donc, quand on est devant un écran, ça inhibe le sommeil. C'est très simple. Il faut arrêter les écrans. C'est essentiel. Ouais. Après, se mettre dans des... Je pense que c'est la routine. Hein. C'est se mettre dans des bonnes conditions, au calme, se coucher à la même heure, faire une activité qui va nous apaiser. Ça peut être lire, ça peut être faire de la méditation. Chacun a sa propre routine. Ça peut être écouter un peu de musique. Mais toujours la même routine qui va favoriser le sommeil. Je sais pas si Johan a une routine, ça sera intéressant d'écouter là-dessus. Ouais.
Moi, je suis pas, pour le coup, sur ça, je suis pas un bon exemple parce que je regarde la télé jusqu'à assez tard et après, bah, je coupe et je vais dans mon lit et là, je m'endors direct. Mais je suis pas quelqu'un qui lit ou. Mais par contre, après, j'ai cette faculté. Moi, de mon côté, je coupe la télé à n'importe quelle heure, 23h ou 23h30 ou minuit. Je coupe la télé 2 minutes. Je m'allonge. 2 minutes après, je dors. Hein.
Mais dans ta vie au quotidien, tu te dis pas, je sais pas, t'es devant ton écran, tu regardes une série ou un film ou un match de foot, tu dis pas, bon allez, à telle heure, je vais me coucher.
Non.
Non, tu t'imposes jamais, ouais. D'accord.
Ça dépend de mon état. Je le prends un peu suivant mon état de fatigue, je le sens, hein, tu le sens, quand t'as le coup de barre, faut le sentir arriver. Par contre, ce qu'il faut faire, alors je sais pas si c'est vrai, mais t'as l'impression que des fois, quand t'as loupé ton cycle de sommeil, à un moment, t'as un coup de barre. Si tu le loupes, que tu restes éveillé pendant 10 minutes, un quart d'heure, pendant une heure, après, t'es super éveillé.
Yoann, c'est génial, les conseils que t'as donné, c'est vraiment se coucher quand on est fatigué, parce que c'est le coche, c'est notre cycle de sommeil. Et si on l'a loupé, fois, faut attendre 40-50 minutes.
Voilà,
il vaut mieux attendre. Parce qu'en fait, si on se met dans son lit, qu'on est énervé, parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on n'a pas sommeil, ça sert à rien, on perd du temps, on s'énerve. Donc autant attendre d'avoir le prochain coup de barre.
Ouais. Vous savez ça, tous les deux, c'est le conseil qu'on entend chez les journalistes matinaliers.
Ouais.
Parce que souvent, quand tu démarres à 2h ou 3h du matin tout au long de l'année, t'as ce qu'on appelle des fenêtres de sommeil.
Et, là,
et quand tu as loupé ta fenêtre,
et
malheureusement, la suivante est pas si rapide à venir. Ça peut être, comme tu l'as dit, 45 minutes, une heure. Donc il faut surtout pas, Victoria, se forcer à aller se coucher, parce que tourner dans le lit, c'est pareil, c'est contre-productif. Quoi. C'est pas là qu'on se repose.
Voilà, on arrive énervé au prochain cycle de sommeil, on n'a plus sommeil, il vaut mieux faire une autre activité, lire ou même regarder la télé, même si c'est un écran, en attendant de ressentir la fatigue pour se coucher.
Alors,
j'ai une question, le vrai sommeil, c'est celui qui le vrai sommeil réparateur, c'est celui où on dort vraiment, parce que des fois il y a des moments où on va être un peu
somnolent,
tu dors mais tu dors pas, t'es un peu éveillé, t'es au fond, t'es dans le lit et tout. Celui-là, il répare rien.
Alors un repos les yeux fermés est tout de même réparateur, mais pas du tout autant que le sommeil. C'est sûr que ça n'a pas les mêmes facultés. On n'a pas le même pouvoir de récupération. C'est sûr que si on est très fatigué, il vaut mieux s'allonger une demi-heure, fermer les yeux et se détendre que rien. Mais c'est pas aussi bien que le sommeil.
C'est ça.
Donc le fait de passer la nuit les yeux fermés sans dormir, on va être très fatigué le lendemain.
Ouais.
C'est vrai qu'on a besoin de s'endormir et d'avoir un sommeil réparateur. Et ça, on va en parler aussi, le sommeil réparateur, ce que c'est.
Ah justement, allons-y.
Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent diminuer la qualité du sommeil. Ça, c'est un vrai problème.
Alors, justement, on parle souvent.
Les sportifs prennent des stimulants.
Ou alors, on parle notamment de la température de la chambre aussi. Ça aussi, c'est important pour bien dormir.
Mais tout à fait, tout à fait. En fait, quand il fait trop chaud, on a du mal à s'endormir, on respire moins bien. On peut même faire de l'apnée parce qu'on a une sécheresse des muqueuses et on peut avoir une congestion des muqueuses. Donc c'est vrai que la température, c'est aux alentours 19 à 21 degrés. C'est sûr que s'il fait 28 dans la chambre, on va avoir des micro-éveils qui sont liés aux apnées et au fait qu'on respire moins bien. Et là, le sommeil est moins réparateur.
Et le conseil que vous disiez pour les couples, tu me l'as dit avant, Victoria, c'est de virer le conjoint ou la conjointe 15 jours avant la course, c'est ça ?
Pas de virer le conjoint, voilà.
Le conjoint qui ronfle. Faut s'endormir avant.
Moi, le mien, je le mets sur le côté, ça marche plutôt bien, parce qu'on ouvre les voies respiratoires.
Voilà. Alors, justement, j'ai une pensée pour tous les jeunes parents, également, Victoria, parce que c'est un moment particulier de la vie, lorsqu'on vient d'avoir un enfant. Les nuits sont souvent saccadées.
T'as fait semblant de pas te lever, je sens.
Ah non, non.
Toi, t'as fait semblant de rien entendre.
Alors, méfie-toi, j'étais un père exemplaire.
C'est le syndrome du pied qui bouge dans le lit.
Voilà, le coup de pied ou le coup de coude. Au début, ça part par un petit coup de coude, puis ça finit par un grand coup de coude dans le nez, donc il faut se lever assez vite.
Ça finit par une gifle.
La question, c'est est-ce qu'une nuit saccadée, ça perturbe également la récupération ? Est-ce que un sommeil entrecoupé, là aussi, ça reste aussi récupérateur ? Récupérateur ou non, forcément, c'est moins efficace.
Le problème, quand on dort en plusieurs morceaux comme ça et que les réveils sont pas naturels, on va être coupé au milieu de ces cycles de sommeil. Donc même si en durée, parce qu'en fait, quand on se rendort, le sommeil profond n'arrive pas tout de suite. On va avoir tendance à faire moins de sommeil profond parce que le cycle va recommencer. Donc même si on dort en cumulé 8 heures avec 3 ou 4 réveils, on va être plus fatigué que si on a dormi 8 heures d'affilée.
Donc c'est pas la même efficacité.
Ça n'a pas la même efficacité. Après, des fois on n'a pas le choix, mais ça n'a pas la même efficacité et on peut être plus fatigué, avoir plus de mal à récupérer, moins d'endurance, etc.
Dis-toi, le problème quand on est parent, c'est que ça dure 25 ans. On peut rien
faire. C'est ça. Après, c'est d'autres problèmes.
J'ai vu un autre conseil pour ceux notamment qui se douchent le soir. Il paraît que la douche chaude est déconseillée.
Ah ouais, moi je prends une douche froide. Ouais. Ouais. J'arrive pas à dormir. Je me lève, je prends une douche froide.
Et notamment le bain chaud, parce qu'on monte sa température corporelle. Hein, ouais. Les patients que je vois, ils me disent « Oh, mais je prends un bain brûlant pendant une heure le soir, j'ai du mal à m'endormir. » Bah, c'est comme le sport, ça monte la température corporelle. Donc, une douche pas trop chaude, ou si on prend une douche chaude, au moins avoir une heure et demie de décalage entre le moment du coucher. Quoi.
Parce que ça accélère le cœur ? Pourquoi ? Parce que ça fait monter la température corporelle.
Mais en fait, la température corporelle, elle va inhiber un peu les centres du sommeil, elle va accélérer le cœur, monter la tension. Donc, le mécanisme du sommeil se met moins bien en place.
Douche froide alors, monsieur Durand.
Ouais, moi je suis plus je mets du froid, et comme elle disait, quand j'ai eu ça m'arrive des fois d'avoir un peu des insomnies comme tout le monde, et comme je disais, mettre de la musique relaxante. Je mettais un petit fond de musique, tu sais, quand tu vas te faire masser là, ou que avec des petites musiques relaxantes, et ça endort. Je me mets ça, ouais. Bon, okay. Ça énerve les gens à côté. Ouais. Mais...
tu peux te mettre des contis.
Ouais, mais quand on est sensible à se relaxer, il y en a qui arrivent à se détendre. Ouais, j'ai des sportifs qui arrivent très bien à faire leur séance de méditation pour se détendre, puis il y a d'autres, ça énerve, donc faut trouver le truc qui est adapté à chacun, quoi.
C'est ça.
Ok. Autre question, elle est d'actualité parce qu'on est en plein milieu du mois de juillet. Forcément, lorsqu'on est en vacances, on est soit en famille, soit avec des amis, on se couche un peu plus tard. Là aussi, comment faire en sorte d'optimiser son sommeil, Victoria ? On décale l'heure du réveil tout simplement.
Alors ça, c'est une vraie question et quelque chose que je voulais aborder parce que quand on est en vacances, on se laisse un peu aller, on se couche plus tard, on est en soirée, on consomme de l'alcool.
Oui.
Et tout ça, l'alcool ou d'autres substances, ça diminue la qualité du sommeil. On dort moins bien. Et on fait moins de cycles de sommeil. Et après, quand on est alcoolisé, en fait, c'est pour ça qu'on est fatigué le lendemain, même si on a dormi, parce qu'on a eu un sommeil pas réparateur. Donc vraiment faire attention si on doit s'entraîner le lendemain à sa consommation d'alcool, d'apéro, de verre de vin le soir. Essayer effectivement de pas se coucher avec un énorme décalage. Parce que si on a 3 ou 4 heures de décalage par rapport au temps de coucher habituel, c'est difficile d'avoir un sommeil réparateur, parce qu'on n'a pas l'habitude de dormir le matin, par exemple. Ouais. Donc on va avoir un sommeil qui ne va pas être réparateur. Donc si on est dans une logique d'entraînement, de performance, de préparation de compétition, il ne faut pas faire des excès tous les soirs. Et puis il faut être vigilant, pas veiller toute la nuit.
Toi, Yoann, en tant qu'athlète, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent par rapport au sommeil, des conseils complémentaires ?
Ouais, mais c'est exactement tout ce qu'on a dit. Hein. Ouais. C'est vraiment la durée du sommeil qui va être importante. Pourquoi pas caser une petite sieste et surtout regarder sa planification, son programme d'entraînement, et savoir que s'il est sur les 2-3 prochaines semaines, je vais augmenter mes entraînements, je vais augmenter mon intensité, je vais augmenter mon volume. Et il faut que derrière tout suive, que ça soit, comme on l'a dit, l'hydratation et le sommeil et avoir une bonne hygiène de vie. Donc si vous entraînez plus, dormez plus, c'est logique.
Une pensée aussi, Victoria et Johan, pour les travailleurs de nuit, ceux qui bossent la nuit, pareil, comment on adapte le sommeil ? Est-ce qu'on essaye de maintenir des cycles comme ça, Victoria ? Est-ce qu'on dort en deux fois, parce que ça aussi c'est connu ? Ou est-ce qu'on essaye de maintenir quand même une grosse portion de sommeil qui peut être, de 5, 6, 7
heures ? Alors ça dépend de si on travaille en début de nuit, en fin de nuit ou toute la nuit, comme les infirmières. Moi je sais que le personnel à l'hôpital, ou nous, dans des gardes, on essaye quand même, quand on a passé une nuit à pas dormir du tout, de rentrer et de faire... souvent, on n'arrive pas à faire une nuit, mais dormir toute la matinée, on fait 5-6 heures de sommeil, parce qu'on a quand même travaillé 24 heures et on a besoin de récupérer. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il est difficile de s'endormir le lendemain d'une garde ou le lendemain d'une nuit de travail. S'endormir deux fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, c'est un peu compliqué. Après, je ne sais pas s'il y a des recommandations particulières là-dessus, parce que c'est toujours un peu difficile à gérer au cas par cas.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que pour les sportifs qui travaillent la nuit, il y en a qui vont s'entraîner juste après et qui vont aller se coucher.
Bien sûr. Nous, par exemple.
Ça va favoriser le sommeil. Ça va donner de la fatigue un peu physique et puis on va pouvoir se coucher. Et puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à faire du sport tout de suite. Ils vont d'abord dormir, récupérer, puis quelques heures après faire leur séance le soir.
Souviens-toi, on avait reçu Anthony Morel. Mais
c'est difficile à gérer. Hein.
Notre ami de BFM Business, qui lui justement est matinalier, donc il démarre à 3h du matin, et lui il fait sa séance en sortant du travail.
Courageux, hein, franchement, bravo.
Ah mais il fait ça lui, du coup il arrête à 9h et là il va courir à ce moment-là, quoi, sur la fatigue de la journée, puis après.
Il peut dormir un petit moment.
Voilà.
Moi j'ai une petite question pour les ultra trailers qui nous écoutent, ceux qui vont faire des 200. Qui vont passer plus de 2-3 jours en montagne avec des nuits. Là, le meilleur conseil, c'est quoi? C'est de faire des micro-pauses de un quart d'heure, une demi-heure pour régénérer, ou vaut mieux dormir 3-4 heures, enfin.
Alors ça, c'est vrai que ça dépend de chacun. Il y a, sur les ultra-trails, en fait, au niveau musculaire, ce qui est mieux, c'est de faire plusieurs petites pauses pour récupérer.
Ouais.
Parce que c'est sûr que si on s'arrête toutes les 3-4 heures, un quart d'heure, ça permet aux muscles d'évacuer l'acide lactique, de se réhydrater, les fibres musculaires se reposent. Après, c'est vrai que c'est peut-être moins facile à faire
s'arrêter
de dormir un coup, qui est plus facile sur le plan un peu du cerveau. Quand on se dit, allez, j'ai dormi, j'ai récupéré. C'est un peu en fonction des capacités de chacun, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire, à tenir sans sommeil, c'est compliqué, c'est aussi un entraînement, mais sur le plan musculaire, moi, je dirais que c'est plutôt des arrêts courts.
Non, mais c'est une bonne réflexion, parce que, notamment pour les ultra-trailers, ça se travaille aussi, ça. Apprendre à récupérer un quart d'heure, 20 minutes, ça, ça fait entièrement partie de la préparation, quoi.
C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui se lancent dans des ultra-trails et sans avoir, même couru à un marathon avant, et je leur dis que c'est très important, là, apprendre à gérer l'effort sur
bon
une
courage,
longue distance, parce que, on sait. Non, parce que oui, mais on en voit qui finissent pas aussi, qui nous consultent après. Donc, justement, on est dans la prévention et la gestion de l'effort sur une longue distance. Bah, Johan, il nous dira ça beaucoup mieux que moi. C'est pas pareil que
toi, Johan, un marathon, ça dure moins de 2h10. Donc, ça va assez vite finalement. Si on part comme ça.
C'est vrai que.
C'est pas le bon exemple.
Non, mais.
Ça va trop vite. C'est impressionnant.
Dernière question pour toi, Victoria. La gestion des insomnies, on l'a rapidement abordé, mais il y a des gens qui en souffrent. Hein. C'est pas évident pour tout le monde de dormir comme Johan Durand, de s'allonger et de s'endormir au bout de 3 minutes. On a donné des conseils, la musique relaxante, etc. Est-ce que ça se traite? Autre question, est-ce qu'on repousse au maximum la prise de somnifères, par exemple? Parce que ça, il faut pas tomber là-dedans, j'imagine.
Les somnifères, faut être vigilant parce qu'il y en a plein qui ont encore un effet le lendemain, donc faut surtout pas aller prendre des molécules qui agissent comme les benzodiazépines, dans la plupart des cas, 12 heures à 24 heures, parce qu'on va être pas très frais pour courir le lendemain.
Ouais.
Donc, il faut en discuter avec médecin généraliste ou médecin de sport, prendre une molécule d'action courte. Effectivement, attendre de prendre le somnifère parce qu'on dort pas, il est 2 heures du matin, c'est pas une bonne technique. Si on sait qu'on va pas dormir parce que c'est la centième fois que ça arrive, on veut le prendre à peu près 1 à 2 heures avant de coucher, pour que le médicament ait temps de faire effet.
Bon, écoute Victoria, c'était très complet. Merci beaucoup. Avant justement de te libérer, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots les principaux conseils concernant le sommeil, le lien entre le sommeil et la course à pied? Comment optimiser son sommeil si on veut justement continuer à performer?
Mais oui, bien sûr. Donc les trois piliers de la récupération, l'hydratation, et l'alimentation et le sommeil. Le sommeil de 7h à 9h tous les jours, et avoir un sommeil qui est récupérateur. Il doit être fait à heure fixe, sans avoir un repas lourd le soir, sans consommer de substances type alcool avant de dormir, et faire des micro-siestes, voire des siestes plus longues, si on a un effort prolongé le matin, ou si on a 2 entraînements par jour. C'est quasi systématique. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Puis s'il y a des troubles du sommeil, bien sûr, qui durent depuis des semaines et des semaines, il faut en parler, parce que c'est pas forcément des traitements médicamenteux. C'est parfois simplement changer sa routine, son hygiène de vie, ça règle le problème. Faut en parler au kiné, au médecin de sport, au professionnel de santé qui encadre le sportif.
Il faut en parler ou arrêter le Red Bull, tout simplement.
Le café.
Ouais, arrêter Red Bull et pas prendre de substances.
Excellente question, le café et le thé. Est-ce qu'on arrête le café avant 16h?
C'est un mauvais exemple pour le Red Bull.
Ah, d'accord. Non, mais au niveau du café, c'est vrai qu'on est...
Je voulais en parler, en fait.
Beaucoup de ceux qui nous écoutent sont consommateurs de café. Ouais. Nous, on est également consommateurs.
Moi, le premier. Mais moi, après 15h, plus de café.
C'est quoi le bon conseil, alors, Victoria?
Alors, déjà, il y a le café dans la journée, puis le café, avant, ceux qui me disent, ah ben, je prends mon petit expresso bien, bien serré avant le marathon, ça me booste. Bah, c'est vrai que ça booste, mais le problème du café, c'est que ça fait monter la fréquence cardiaque. Quand au repos, on a déjà une fréquence cardiaque qui est rapide, on est moins performant, on peut moins la monter. D'ailleurs, les coureurs, ils sont super lents, ce qui leur donne de la réserve. Ils peuvent vachement monter la fréquence cardiaque. Plus on peut la monter, plus on est performant, plus on est endurant, plus on peut courir vite. Donc le café, si on en consomme beaucoup avant de courir, va plutôt malheureusement baisser la performance.
Mais justement,
même si intellectuellement, ça va nous stimuler.
Ça perturbe après, le sommeil, Victoria, le café, ouais.
Et puis évidemment, si c'est pris après, allez, on dit 17-18 heures, ça va en plus entraîner des difficultés d'endormissement parce que ça fait accélérer le cœur, monter la tension, on est excité, on est énervé avec le café. Donc ça peut donner des troubles de sommeil. Donc oui, dans le cadre d'un entraînement, au petit déjeuner, éventuellement au déjeuner, 1-2 par jour avec modération, mais plutôt éviter le soir et éviter avant toute compétition.
Ouais, j'étais pas sûr du truc, l'espresso avant la course pour donner une
mousse. Ah, mais ça, il y a les patients qui me le disent.
Mais ça doit faire mal au ventre aussi.
En plus, t'as raison.
Ça doit faire mal au ventre.
Ceux qui sont sensibles de l'estomac, oui, c'est pas une bonne idée.
Mais j'ai vu des coureurs prendre des Red Bull, une heure avant une course, au moment de l'échauffement, c'est si. Ouais.
Toi, t'évites le café le matin de la compète?
Non, je le prends, mais 3-4 heures avant, comme tout le monde, histoire d'être bien éveillé quand même. Mais, parce que je suis un peu consommateur de café.
Ça m'étonne pas, j'entends des trucs, parfois, je me dis, c'est pas possible.
Ça arrive, hein,
chez... Les coureurs qui se font des mix pas possible pendant la course.
Sur des efforts de 24 heures ou autre, peut-être qu'à un moment donné, il faut secouer.
Effectivement. Bon. Sur des efforts de 24 heures, ça on peut l'entendre, mais avant de courent à 20 km, ils font un mélange de tout et n'importe quoi comme stimulant avant de courir. Je dis non, mais c'est pas ça qui va augmenter la performance. Il faut surtout bien s'entraîner avant.
Bon, écoute, Victoria,
ça nous a donné envie de dormir.
Ça nous a donné envie de dormir.
C'est bon, on va tous aller faire notre sieste. Cette invitation.
Je suis
ravie d'avoir connu Johan. C'est un grand honneur d'échanger avec lui. Vraiment, c'est trop cool.
Plaisir. Et tu reviendras si tu veux. Tu viendras en studio d'ailleurs, comme ça.
Avec grand plaisir.
Notre thématique
de visu,
sport santé.
Super chouette.
Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu voulais aborder d'autres sujets? Parce que là, plusieurs fois, tu m'as dit je voulais en parler. Est-ce que tu voulais parler d'autres choses avant qu'on se laisse du coup?
Je pense qu'on a globalement fait le tour sur les recommandations. Après, on pourra aborder les autres sujets de prévention, parce qu'il y a d'autres choses dont on peut parler alimentation, on peut parler d'hydratation, enfin c'est un sujet très vaste et il y a une certaine logistique autour d'un entraînement et autour de quelqu'un qui fait une performance, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses.
Écoute, rendez-vous est pris, tu reviendras dans RMC Running nous donner d'autres conseils sur un autre sujet, ok Victoria?
Mais avec grand plaisir.
Écoute, je le rappelle, nous on a une tradition dans RMC Running, lorsqu'on reçoit quelqu'un, on termine justement, parce que tu es runneuse aussi, par la musique que tu écoutes. On en a parlé juste avant, tu m'as dit j'écoute pas de musique, j'écoute des podcasts. Bon, donc on a mis le bête d'RMC Running, évidemment.
Parfait, excellent.
Là on est bien, et on te remercie une nouvelle fois, Victoria Tchaïkovski, qui est médecin du sport et qui vous a tout dit. Sur le sommeil. L'importance du sommeil. Et oui, ma petite marmotte.
Je vais retourner dans mon trou.
Exactement. Merci encore, Victoria. Et en tout cas, on s'est régalé avec toi. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Et surtout, n'oubliez pas ce conseil. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.